liquida di tizi, pure e dans portable. Eh bien, moi je vous dis de ne pas le passer au méchant. Mais si quelqu'un le gifle sur la joue droite, t'en dis encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui le demande, donne. À qui veut t'en prêter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, la récompense méritez-vous. Les publicains, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant. Et si vous ne saluez pas tous, et si vous ne saluez pas vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant. Vous donc, vous serez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, chez moi en famille, nous, les 12 enfants, nous avons grandi loin de nos grands-parents, tout simplement parce que mes grands-parents habitaient dans une ville éloignée. Et à ce moment-là, c'était compliqué, les moyens de communication, le voyage, tout était compliqué. C'est ainsi que moi, j'ai vu pour la première fois mes grands-parents quand j'avais l'âge de 20 ans, 21 ans. Ce que j'ai fait, j'avais dit à mon père, en tout cas, j'aimerais beaucoup rencontrer les grands-parents. Alors il m'a dit, t'en fais pas, je vais essayer d'organiser ça. C'est ainsi que quand le moment est arrivé, j'ai voyagé. Je suis parti voir mes grands-parents, et du côté maternel et du côté paternel, parce qu'ils vivaient dans la même ville. Mais je suis resté davantage avec les grands-parents du côté paternel. Alors quand je suis arrivé, mon grand-père m'embrasse longuement, il me regarde la face et dit, « Comme tu ressembles à ton père !» Alors ma grand-mère, la même chose, « Quelle ressemblance !» Et puis mes tantes, les sœurs de mon père, la même chose, ils disent, « Mais on n'a jamais vu une telle ressemblance. Comment ça fait que vous te ressemblez tant à ton père ?» Alors, moi, c'était la première fois que j'entendais ça. Personne ne m'avait dit. Dans la famille, ma mère ne m'a jamais dit. Personne ne m'a jamais dit ça. C'était la première fois que je l'entendais. Alors, quand je suis revenu à la maison 2 semaines, 3 semaines après, j'ai posé la question à mes frères, à mes soeurs, même à ma mère. Mais pour eux, c'était un fait acquis. Mais oui, tu ressembles tellement à papa, disaient mes soeurs. Ta face, là, c'est vraiment la face de papa. Alors, moi, je me suis dit, regardez, en préparant cette homélie, ces faits-là me sont revenus. Mais je suis convaincu que plusieurs d'entre nous ont déjà fait la même expérience. Qu'on vous ait dit que vous ressemblez à votre tante, vous ressemblez à votre mère, vous êtes une photocopie de votre père, etc. Mais en fait, quand on réfléchit, on sait que la biologie nous dit que les enfants, qu'ils le veuillent ou non, portent des gènes de caractère de papa et de maman. Nous les avons tous. Et ce qui est beau, c'est de voir que notre Seigneur, aujourd'hui, dans l'Évangile, il nous dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Parce que vous êtes venus de lui. Il vous a mis au monde, il vous a créé. C'est que vous avez des traits de votre Père Céleste. Et vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est que chaque être humain ressemble à Dieu. Chaque être humain reflète l'image, le visage de Dieu. Mais maintenant, cette réflexion-là doit venir de nos paroles et de nos actions. C'est là que nous devons exprimer, révéler la face de notre Dieu. Mais toute la question, c'est de savoir, quand le Seigneur nous dit « Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait », qu'est-ce que cela veut dire ? Je me suis dit, Pour comprendre cette perfection de Dieu, il faudrait tout simplement se servir de l'extrait évangélique d'aujourd'hui. Le Seigneur nous dit, regardez votre Père. Il fait briller son soleil sur les méchants et sur le bon. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Ce qui veut dire que le soleil qui nous éclaire, qui braque ses rayons sur nous, ce soleil-là, que tu sois sur le canal, que tu vives à l'est de la ville ou à l'ouest ou au centre-ville, le soleil est le même. Il ne va pas changer du tout. Il est toujours là avec ses rayons. Ça, c'est l'image de l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés une fois pour toutes. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous sommes à la messe ici à 11h, Dieu va nous aimer davantage. Non. Dieu nous a déjà aimés une fois pour toutes. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je vais tomber dans mon péché, Dieu va me détester. Non. L'amour de Dieu ne change pas. Nous, notre affection, nos actions, nous n'affectons pas l'amour de Dieu. C'est le soleil qui est là, qui brille, qui braque sur nous. Alors l'amour de Dieu est généreux, inchangeable. Il ne varie pas. Il nous a aimés une fois pour toutes. Nous sommes comme la prunelle de ses yeux. Nous comptons à ses yeux. Quand nous étions encore pécheurs, dit Paul chez les Romains, le Christ est mort sur la croix pour nous. Peut-être qu'on mourrait pour une personne qui est généreuse, qui est bonne. Peut-être que quelqu'un accepterait. Mais mourir pour la personne qui fait détruire les autres, qui cause du mal aux autres, qui va accepter de le faire? Regardez, le Fils de Dieu est mort alors que nous étions des pécheurs. Ça, c'est l'amour généreux de Dieu. L'amour de Dieu qui s'est dit et qui s'exprime, qui est tourné même vers le pécheur, même les personnes qui ne veulent pas entendre de lui, les personnes qui le détestent. Mais l'amour de Dieu est toujours là. Voilà le sens de la gratuité, de la bonté sans limite de Dieu, de la miséricorde sans borne, et tout cela, eh bien, c'est l'expression de l'amour de Dieu, de ce soleil qui est braqué sur nous et qui ne change jamais. Mais maintenant, comme je disais, nous portons des traits de Dieu parce que nous sommes ses enfants. Alors, maintenant, tout le travail, c'est qu'au jour le jour, nous arrivions à refléter ces traits de Dieu-là dans le faire et dans le dire. C'est que si nous voulons exprimer la générosité incroyable de Dieu, la bonté sans limite de Dieu, eh bien, nous devons apprendre à aimer nos ennemis, à prier pour ceux qui nous détestent, à vouloir du bien à ceux qui nous mettent les bâtons dans les roues. Comment le faire? Eh bien, c'est une exigence de l'enseignement de notre Seigneur. L'éthique que le Seigneur nous propose aujourd'hui, c'est l'éthique de l'imitation. Regardez, le Seigneur lui-même a fait la même chose. Sur la croix, il pardonne à ses bourreaux. Maintenant, il faut apprendre à l'imiter. En d'autres termes, si tu reçois une injure, tu ne remets pas l'injure pour l'injure. Si tu reçois le mal, tu le remets pour le bien. En d'autres termes, tu coupes le cercle de la violence. Tu te retires de la violence. Et tu vis la non-violence parce que tu ne veux pas faire le mal pour le mal. Tu veux garder la générosité de ton cœur. Tu veux que le soleil de ton cœur, l'amour de ton cœur, puisse se braquer sur tout le monde, sans aucune différence. Voyez, parlant de la non-violence, vous savez que Gandhi était en admiration du Christ. Il s'est inspiré de l'évangile d'aujourd'hui pour justement lancer son mouvement de la non-violence qui a conduit l'Inde à l'indépendance, comme nous le savons. La même chose, Martin Luther King, aux États-Unis, qui a regroupé tant de personnes autour de ce mouvement qu'on appelait les droits civiques, eh bien, il s'est appuyé, parce que Martin Luther King, vous le savez, il était chrétien comme vous et moi. Il était de la dénomination baptiste. Alors, il s'est inspiré de cet évangile du Christ, de la non-violence, d'aimer ses ennemis, pour lancer aussi ce mouvement de la non-violence. Et ce mouvement, nous le savons, a conduit à la paix, a conduit à la réconciliation, a conduit à faire exploser les lignes et les liens de l'exploitation, les liens raciaux. Même chose, Nelson Mandela, en Afrique du Sud. À la fin de sa vie, eh bien, il a appelé à la non-violence. Et grâce à ce mouvement-là, inspiré encore du Christ, il a conduit le peuple sud-africain à l'expulsion, à l'arrêt de l'apartheid, officiellement. Mes amis, nous sommes invités aujourd'hui à réfléchir sur cet amour extraordinaire, cet amour héroïque que nous propose notre Seigneur aujourd'hui. Comme je le dis encore, ce n'est pas facile. Seul, on ne va pas les réussir. Nous aurons toujours besoin de cet amour de Dieu, de ce soleil-là qui vient descendre dans nos cœurs. Alors quand l'amour de Dieu demeure en nous, alors il nous rend capables d'aimer comme lui aime. Alors il nous donne la grâce, la puissance d'accueillir l'ennemi. Il nous donne la grâce, la puissance de sortir de la violence et de travailler pour la paix continuellement. Écoutez, demain c'est la fête de la famille. Et souvent, nous vivons de l'agressivité, de l'injure, de l'humiliation dans nos propres familles. Ça arrive. Encore là, c'est dans nos familles, concrètement, où nous sommes appelés à tourner notre soleil vers tous les membres de nos familles pour les aimer tels qu'ils sont et apprendre à pardonner déjà comme toutes ces personnes-là le sont. Voyez-vous, vous rappelez, dans le livre des Actes des Apôtres, nous avons Saint Étienne. Et Saint Étienne, quand il a été tué à coups de pierre, alors on dit qu'avant de mourir, il regarde et dit « Père, ne tiens pas compte de leurs péchés. » Il suit l'exemple du Christ sur la croix et pardonne à ses ennemis. La même chose, l'imitation du Christ. La même chose, vous rappelez Jean-Paul II ? Le 13 mai 1981, alors qu'il était sur la place Saint-Pierre en train de visiter, en train de saluer les gens, on tire dessus, 2 balles. On l'amène vite à l'hôpital. 4 jours après, le 17 mai 1981, il fait dire au monde entier, merci pour vos prières parce que le danger est passé. Mais je prie pour mon frère qui m'a tiré 2 balles. Et je lui pardonne déjà sincèrement. Et vous vous rappelez, il y a eu ces images-là qui ont circulé, où on montrait le pape Jean-Paul II en visite dans la prison pour aller voir Ali, qui avait tiré sur lui. Mais le plus beau, c'est l'histoire que raconte Benoît XVI dans son encyclique sur l'espérance. Alors là, il raconte l'histoire de Sainte Joséphine Paquita. Alors il dit, cette personne-là, eh bien, elle a été retirée de sa famille à l'âge de 9 ans. Elle a été prise par le trafiquant d'esclaves. C'était au 19e siècle au Soudan. Et elle a dû changer à 5 reprises différents maîtres. Et on raconte qu'elle a beaucoup souffert. Souvent, elle a été battue jusqu'à 100. Et voilà que le dernier maître, c'était un Italien qui était ouvert, assez bon avec elle. Et elle s'étonnait de voir que ce maître-là n'était pas comme les autres. De toute façon, on l'amène en Italie parce que le maître doit retourner en Italie. Et là, elle raconte le christianisme. Elle s'est fait baptiser, devient chrétienne. Plus tard, elle devient religieuse. Elle entre dans une communauté italienne. Alors, on lui pose la question à la fin de sa vie. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à ces anciens trafiquants qui t'ont fait tant souffrir? Parce qu'on raconte que sur son corps, il y avait 144 cicatrices de fouets et de coups. Alors, elle dit aux personnes qui lui posaient la question, elle dit, si je rencontre ces personnes-là, je vais m'agenouiller et leur baiser les mains. Parce que, ce qu'ils ont fait, moi je suis devenue chrétienne et puis religieuse. On ne peut pas dire ces paroles-là si tu n'as pas été touché, transformé par l'amour du Christ. Et puis, elle dit aussi, voilà, ces personnes-là, probablement qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ce qu'elles faisaient. Parce que c'était continuellement, comme nous sommes habitués à faire de bien, eux-là, ils étaient habitués à prendre les gens, à les trafiquer. C'était devenu quelque chose de routine. Ils ne pensaient plus rien. Ils faisaient le mal sans le savoir. Pour dire ces choses-là, il faut être transformé par l'amour du Christ. Regardez, hier, j'ai changé avec le père Yvan Mathieu parce qu'il est venu prêcher ici une semaine de, de ressourcement, une fin de semaine de ressourcement. Alors il m'a partagé une histoire que lui-même a racontée hier durant son enseignement. Il dit voilà que le prêtre est en train de faire son homélie. Alors il pose la question aux gens, il dit « Mais qui de vous n'a pas d'ennemi dans la vie ?» Levez la main. Personne. En tout cas, la messe suivante, il pose la question « Qui de vous n'a pas d'ennemi sur la terre ?» Au fond, M. Tremblay lève la main. Il avait 97 ans. « Dis-moi !» Alors, le curé est content. « Mais viens donc nous raconter, tu es un modèle pour nous, on veut suivre ce que tu fais. Viens dire donc, comment ça se fait que tu n'as pas d'ennemi dans la vie ?» Alors, M. Tremblay se présente devant tout le monde, il regarde le peuple et dit « Écoute là, moi ce n'est pas de ma faute, tous mes ennemis sont morts. » On va regarder cette énoncé de vision. Comme à chaque dimanche, je reviens sur l'énoncé des visions. Nous l'avons déjà dans notre bulletin. Mais je voudrais insister sur un terme ici que je trouve important et qu'il nous faut penser à ce que le Seigneur nous dit dans l'Évangile. Alors, nous avons vu déjà la première phrase. La paroisse Saint-Gabriel est une communauté chrétienne chaleureuse. Chaleureuse. Comment est-ce qu'on peut être chaleureuse? C'est parce que les rayons solaires braquent sur nous. On est chaleureux du soleil. Mais quel est le soleil? C'est l'amour du Christ. Notre communauté va être chaleureuse de l'amour du Christ. De sorte que quand les personnes viennent ici, ils se sentent aimés. Ils se sentent réchauffés par notre amour. Et si nous insistons que cet amour chaleureux, cette communauté chaleureuse, c'est où? Et les enfants, et les adolescents, adolescentes, et les adultes, tout le monde se retrouve, c'est parce qu'on ne peut pas continuer la liste. En fait, on veut dire, cette communauté accueille tout le monde. Il n'y a pas de discrimination, nous accueillons tout le monde. Et quand tout le monde arrive ici, tout le monde sent de cette chaleur-là. Et on veut rester au chaud à Saint-Gabriel. C'est ce qu'on voudrait faire en donnant cet énoncé. Nous voulons vivre une transformation, petit à petit, dans notre communauté. On veut que les choses s'améliorent toujours, toujours davantage. Qui ici sur la terre peut dire, moi je m'arrête ici dans ma spiritualité, c'est fini? Personne. Nous devons continuer continuellement, sans arrêt. Voyez-vous? C'est ce que nous voudrons faire avec cette idée de la chaleur. Alors pour revenir sur notre monsieur Tremblay, moi je me dis, la prière qu'on va faire, on ne va pas demander que nos ennemis disparaissent de l'existence. On ne va pas demander ça. Mais ce qu'on va faire, on va demander au Seigneur d'ôter de nous, de notre cœur, tous nos ennemis. Que les personnes qu'on voit dans notre cœur, que tout le monde dans notre cœur, que ce soit un cœur généreux, qu'on accueille tout le monde, que personne qui entre dans notre cœur soit ennemi. Que toute personne à qui on pense, qu'on ne le voit jamais comme un ennemi. C'est la grâce qu'on va demander dans la messe d'aujourd'hui. Et aussi, je voudrais terminer avec la belle prière de Saint François d'Assise. Seigneur, là où il y a la haine, apprends-moi à porter la paix. Seigneur, là où il y a l'offense, apprends-moi et apporte le pardon. Amen.